Donc, je m'appelle Diane, je suis donc coprésidente avec monsieur, donc tous les deux fondateurs de l'association. Je travaille en ce moment à la SPA de Laval. J'ai travaillé dans pas mal de choses liées aux animaux, notamment des centres de soins à la faune sauvage, des parcs zoologiques. Donc voilà, j'ai une vision assez globale du milieu, j'ai fait pas mal de choses en lien avec les animaux justement.
Moi, je m'appelle Victor, j'ai 25 ans, je suis professeur à Évron et j'ai appris en quelque sorte le métier du fait de Diane sur le tas parce que je n'ai aucune formation pour ça.
Et donc, vous avez tous les deux décidé de créer cette association Linnée il y a déjà un petit peu plus de 2 mois. Comment vous est venue cette idée déjà et pourquoi vous engagez dans un tel projet ?
Non, en fait, c'est quelque chose qu'on fait du coup officieusement depuis déjà maintenant 6 ans peut-être. Simplement, on n'était encore pas sûr de où nous allions habiter puisque monsieur est professeur, on attendait sa mutation en fait tout simplement. Donc voilà, là c'est le déménagement qui a déclenché la création de l'association. Mais c'est quelque chose qu'on fait effectivement depuis pas mal de temps. Le besoin s'en ressent beaucoup en fait. Il y a très peu de choses pour... ce type d'animaux qui existent. Donc voilà, on s'en est rendu compte en fait au fur et à mesure, en étant dans le milieu, on s'est dirigé faire ce dont il y avait besoin en fait, tout simplement.
Quand vous dites ce type d'animaux, vous pensez à quoi en particulier ?
Donc nous sommes spécialisés dans ce qui s'appelle les nouveaux animaux de compagnie, donc les NAC. Donc ça va être les oiseaux, les reptiles et les petits mammifères de type lapin, furet, cochon d'Inde, voilà, choses comme ça, qui sont des animaux encore assez mal connus, mais qui sont très à la mode. Donc, il y a beaucoup de besoins de prise en charge, notamment puisqu'il y a beaucoup d'abandon, car les gens ne connaissent pas très bien. Et il y a aussi beaucoup besoin de sensibilisation, justement, parce que voilà, les gens ne connaissent pas très bien leurs besoins et se lancent en se disant que c'est un animal qui n'a pas beaucoup de besoins et se rendent compte que si. Voilà.
Selon vous, c'est parce que les gens ne sont pas forcément, en tout cas les propriétaires de ces nouveaux animaux de compagnie, ne sont pas forcément bien informés qu'ils ont tendance, peut-être plus malheureusement, à les abandonner ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les chiens et les chats, c'est quelque chose qui sont des animaux qui vivent avec l'homme depuis plusieurs millénaires, tout de même. Donc on connaît quand même globalement les besoins d'un chien ou d'un chat. Ces nouveaux animaux, justement, on se dit, bon, bah, on le met dans une cage, il fait sa vie. Non, ce ne sont pas des animaux qui peuvent vivre en cage, par exemple. Donc voilà, les gens se font de mauvaises idées sur leurs besoins et sur le temps que ça va leur demander de s'en occuper. Et ils se lancent sans trop connaître. Et du coup, voilà, ça mène à de la maltraitance ou avant, quand les gens s'en rendent compte, à un abandon, justement.
Et il n'y a besoin de, ni diplôme ni rien pour les nouveaux animaux de compagnie. Et les animaleries vendent ça très facilement. Ce n'est pas très cher. Vendent sans se préoccuper des conditions dans lesquelles ils vont vivre, ne donnent pas d'indications. Ce sont des vendeurs, donc pas spécialement nécessaire pour eux d'informer les gens correctement. Et donc, les gens se retrouvent avec des animaux à des prix très abordables, etc. Et on n'a pas pris la peine de leur expliquer comment s'en occuper.
Vous parlez justement de savoir comment vous en occuper. J'imagine que vous, vous vous êtes aussi renseigné, peut-être formé justement pour pouvoir bien s'occuper de ces nouveaux animaux de compagnie.
Oui, effectivement, on se lance pas comme ça sans rien. S'occuper de ces animaux-là demande effectivement pas mal d'expérience et il y a également des formations. Donc moi, je suis titulaire de ce qui s'appelle la CACED, qui est une certification d'État en fait pour les animaux domestiques. Voilà, une formation que j'ai passée l'année dernière. Avec les animaux, il n'existe pas énormément de certificats et de formations, à part bien sûr quand on est vétérinaire, mais on n'est pas là non plus. Donc c'est surtout une expérience que j'ai, voilà, encore une fois, sur le tas, dans beaucoup de structures différentes. Donc évidemment, on se renseigne énormément puisque c'est mis à jour très régulièrement et que avec les avancées scientifiques aussi, on apprend toujours des choses. Donc voilà, on se tient au goût du jour.
Et alors là, pour l'instant, pour les débuts de l'association, quelles sont vos principales activités ? Est-ce que c'est surtout justement recueillir ces animaux qui ont été abandonnés ou bien aller plutôt vers la sensibilisation pour peut-être éviter justement qu'il y ait autant d'abandons ? Ou les deux, peut-être, tout simplement.
Tout à fait, les deux, effectivement, puisque l'un évite l'autre. Donc, on cherche surtout à faire de la sensibilisation, de l'éducation, voilà, sur ces choses-là. Et bien sûr, on est déjà opérationnel pour accueillir ces animaux qui sont déjà abandonnés. Voilà, parce que quand les gens veulent les abandonner, on ne va pas dire non. C'est un petit peu trop tard pour rattraper la chose, mais voilà.
Voilà, et donc pour la sensibilisation, on passe dans les écoles, dans les manifestations publiques. Donc,
fête de quartier.
Si les gens veulent nous faire confiance pour discuter de ça, on sera ravis de venir. Soit dans les fêtes associatives, soit dans les écoles pour les jeunes publics, etc.
Là, les animaux qui sont abandonnés, donc vous dites être prêt à les accueillir. Est-ce que vous avez déjà ce qu'il faut, c'est-à-dire une structure et tout le matériel qu'il faut pour les accueillir ?
Tout à fait. Alors du coup, on est déjà opérationnel pour tous les petits gabarits. Donc en fait, les oiseaux, les reptiles, les petits mammifères, sans problème. Étant donné que ce sont surtout des animaux qui vont être en cage la nuit, puis la journée être en liberté dans la maison. C'est comme ça qu'on les accueille normalement. Donc ça, pour le coup, on peut déjà le faire. Et nous sommes en recherche actuellement donc de locaux qui correspondent à l'ouverture d'un refuge. Donc, qui nous permettrait d'accueillir également des équidés, des chevaux, des ânes et animaux de ferme, choses comme ça. Voilà. Donc ça, pour le coup, on ne peut pas encore, parce qu'en maison, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, pour tous ces petits animaux-là, nous avons déjà, bien entendu, tout ce qu'il faut. Bien sûr, les dons sont toujours accueillis, mais voilà, on a déjà un nombre de cages et de volières suffisants pour ces animaux-là.
Quels animaux et dont avez-vous accueilli, alors sans forcément tous les citer peut-être, mais donner quelques exemples en tout cas de certains?
On a déjà accueilli donc des oiseaux, des petits reptiles et des petits mammifères. On a fait de tout. On a eu des cochons d'Inde, des pogonas qui s'appellent, c'est une sorte de petit reptile.
Des iguanes.
Ainsi que divers types de perruches. Mais qui du coup ne restent pas chez nous. Le but, c'est de les accueillir, mais de les faire réadopter ensuite. C'est de leur trouver une nouvelle famille qui, elle, saura s'en occuper et leur les accueillir de bonne manière. Donc c'est le cas, du coup, ils sont venus, puis repartis. Et on a accueilli également plusieurs goélands. Donc là, pour le coup, ce sont des animaux sauvages. Donc moi, personnellement, je ne suis pas habilitée à prendre en charge la faune sauvage d'un point de vue vétérinaire. Donc en fait, on les prend en charge pour les transférer vers les structures qui sont, elles, habilitées. On a un partenariat en fait avec le Refuge de l'Arche à Château-Gontier, qui est justement un centre de soins à la faune sauvage. Donc nous, voilà, moi j'ai fait beaucoup de bénévolat dans des centres de soins, donc je connais les premiers soins, les choses comme ça. Donc on peut tout à fait les prendre en charge pour les acheminer au plus vite, bien sûr. Mais voilà, c'est déjà quelque chose qui est possible également. Pas hésiter à nous, voilà, à faire appel à nous dans ces cas-là.
Les animaux que vous aviez à l'adoption, là, ont tous trouvé une nouvelle famille d'accueil ou il y en a d'autres qui peinent peut-être plus depuis quelques semaines à trouver une autre famille?
Alors, pour l'instant, du coup, nous avons eu des animaux, entre guillemets, un peu plus faciles à placer. Donc, effectivement, on a trouvé assez rapidement. Et là, par exemple, on s'apprête à prendre en charge, donc pour le coup, comme je vous disais, on n'est pas encore bon pour les animaux de ferme, mais on va le prendre en charge administrativement. Il va être accueilli en fait par une famille d'accueil. Donc ce sera un jeune bouc, donc qui lui va être à l'adoption dès la semaine prochaine, voilà, qui cherche sa famille pour la vie.
Donc si quelqu'un veut un bouc, voilà, vous êtes les bienvenus, vous écoutez la bonne émission.
Et c'était justement ma prochaine question, c'est-à-dire que si on veut se renseigner sur les animaux qui sont à l'adoption, on peut aller sur votre site, vos réseaux sociaux, comment ça fonctionne ?
Tout à fait, on a effectivement un site internet, une page Facebook. Dans les deux cas, on met effectivement des photos et le plus d'informations possible sur les animaux à l'adoption. En sachant que voilà, nous, on demandera forcément quelques informations sur les conditions d'accueil de l'animal, puisque le but, ça va être de le placer dans une bonne famille. Mais voilà, si quelqu'un est intéressé pour adopter, il ne faut pas hésiter à regarder et à nous appeler. De toute façon, on saura renseigner.
J'imagine que ça peut être aussi assez chronophage par rapport à vos autres activités. C'est forcément quelque chose qui vous tient à cœur aussi depuis longtemps.
Tout à fait. Alors disons que monsieur s'est un petit peu laissé entraîner par le mouvement. Moi, j'ai toujours été passionnée d'animaux. Voilà, j'ai commencé très jeune à m'intéresser à faire du bénévolat dans des refuges, des choses comme ça. Donc, voilà, c'était inévitable, une activité de ce genre. Donc, effectivement, ça prend beaucoup de temps, mais voilà, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Donc, je fais en sorte de pouvoir y consacrer le plus de temps possible, tout en étant évidemment salariée, puisqu'on ne peut pas vivre de l'activité d'un refuge, ça va sans dire. C'est pourquoi tous les dons sont toujours tout à fait bien appréciés.
Mais il ne faut pas être passionné par le temps libre pour faire ça.
C'est sûr.
Comment est-ce qu'on peut s'occuper aussi bien d'un bouc que, j'ai oublié le nom, mais d'un iguane que d'un autre oiseau? Parce que j'imagine que c'est forcément des animaux qui nécessitent des soins différents aussi.
Effectivement, ce sont des conditions de vie très différentes. On va avoir par exemple l'iguane qui, lui, doit être dans un terrarium avec une chaleur avoisinant les 40 degrés au point chaud, avec le moins de manipulation possible. À côté, on va avoir des oiseaux avec lesquels il faut limiter le plus possible le stress, mais qui ont besoin de perchoir. Enfin voilà, chacun a ses petites habitudes de vie qu'il faut respecter. Donc c'est pour ça que c'est très important de se renseigner avant. On ne peut pas vraiment faire de généralité quand il s'agit des animaux, de se dire oui, bah, de manière générale, de toute façon, il a besoin de ça. Alors, on peut généraliser en disant qu'ils ont tous besoin de boire de l'eau et de se nourrir, mais sinon, après, le reste, ça change tout le temps.
Et quels conseils, justement, vous pouvez donner à peut-être certains auditeurs qui se disent « Moi aussi, j'aimerais bien adopter un de ces nouveaux animaux de compagnie, mais je ne m'y connais pas forcément. »
Ah, effectivement, on est bien entendu là pour répondre à toutes questions. Mais déjà, dans un premier temps, je conseillerais de ne pas hésiter à s'adresser à un vétérinaire, qui sont bien entendu de bons conseils également. Je donnerais comme conseil aussi d'éviter d'acheter en animalerie et de plutôt adopter, puisqu'il y a beaucoup d'associations comme la nôtre qui ont des animaux à l'adoption qui attendent une nouvelle famille. Et ça évite aussi de, voilà, d'encourager l'idée de l'animal étant dans le commerce. Voilà, dans les animaleries, ce ne sont pas forcément des très bonnes conditions de vie aussi, donc c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter.
Un des bons réflexes à avoir, c'est d'essayer de savoir comment les animaux vivent de façon sauvage.
Oui, c'est
donc,
ça.
Comment cet animal vit quand il a une vie dans la nature.
Essayer de reproduire ça à la maison.
Il faut essayer de ramener le plus possible ce genre de choses. Par exemple, des choses assez évidentes qu'on ne sait pas. Le pogonais, c'est un animal qui vit en Australie. Mmh. Et donc on se rend compte qu'il faut qu'il fasse chaud, mais ce dont on ne pense pas forcément, c'est que la nuit, par contre, il fait très froid. Donc il faut que la température baisse énormément, pratiquement 20-25 degrés entre le jour et la nuit.
Si quelqu'un trouve un animal sauvage blessé, le mettre en carton, ne pas le manipuler, le mettre au calme et au chaud, et appeler au plus vite donc une association comme nous ou directement un centre de soins à la faune sauvage. Ça peut être important de dire ça, puisque les gens peuvent se trouver démunis, vouloir par exemple nourrir l'animal. Et dans ces cas-là, on peut faire plus de mal que de bien. Donc vraiment, voilà, on le met au calme, on n'y touche plus.